Bonsoir, il est 21h, nous sommes mardi et c'est l'heure du Dojo Bar.
Bah.
Voilà, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Méduse.
Immortel.
Une émission un petit peu spéciale ce soir, parce que nous accueillons Oscar, le maître des chiffres.
Bonsoir.
Et Cyrard qui est en train de gratter sur un bout de papier.
Absolument pas.
Voilà, et
sentir ses dents.
Pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance.
Ah attends, je t'en mets.
Vas-y, remets-en une touche là, c'est maintenant. Et voilà.
Ah.
Ça fait du bien.
Mousse de la bière n'importe où. Mais...
mais il a fait beaucoup mousser en fait la bière. C'est une particularité.
Moi c'est une 16 et c'est un peu dégueulasse quand même. Pas terrible.
Bien, au sommaire de cette émission, on va pas commencer par le tour de table de l'actu, on va commencer par un autre sujet. Donc le tour de table de l'actu viendra en deuxième partie d'émission.
Ah bon?
Troisième partie d'émission, on va parler un petit peu des jeux d'horreur, puisque ça, on est un petit peu en période d'Halloween, et en plus c'est l'émission numéro 13. Donc on va essayer de parler un petit peu de jeux d'horreur. Je sais pas exactement quelle forme ça va prendre pour l'instant, mais on va parler de quelques moments qui nous ont un petit peu fait flipper dans certains jeux. Puis, comme c'est les 25 ans de la Mega Drive slash Genesis, J'insiste sur le fait que ce nom est ridicule. De la Mega Drive slash Genesis, on va en profiter quand même pour faire un petit sujet, pour s'étendre un petit peu plus longtemps. Ce sera dommage de le traiter dans un sujet d'actu, on va essayer de s'étaler un petit peu plus dessus. Ce qui fait qu'on va avoir trois sujets dans cette émission, puisqu'on va commencer tout de suite.
Waouh!
Wow. On va s'inquiéter de la santé mentale de Mortal qui a acheté Sonic Lost World, et on va en profiter pour parler.
Voilà, on va commencer par s'inquiéter de ça.
Parler de ces jeux, d'éditeurs tiers, pardon, qui ont bidé sur Wii U, c'est-à-dire à peu près.
Tous, je pense qu'on peut le dire. À peu près
on va
tous.
Commencer par là d'ailleurs.
Voilà, on va commencer exactement par là. Donc, le premier c'était quand même, je sais pas, Rayman Legends qui a été repoussé, donc premier soubresaut, on va dire. Rayman Legends qui devait être à l'origine une exclusivité, qui ne l'est plus, qui a été reporté de 6 mois, donc qui est enfin sorti et qui est un très bon jeu, donc j'ai envie de dire heureusement.
La vie se partageait quand même par rapport à sa différence.
Voilà, on n'a quand même pas pu profiter énormément du jeu. Wonderful 101, ben, très bon jeu, très bonne critique. Boudé, j'ai l'impression, pas forcément bien, très soutenu par Nintendo.
Ouais, enfin, pour le coup, ça, c'est pas un jeu d'éditeur tiers.
Alors, c'est un jeu par un studio tiers, c'est effectivement pas un jeu d'éditeur tiers. Mais de toute façon, je pense que si Rayman Legends était une exclusivité, c'est parce que Nintendo avait dû mettre des quinquins au bout. Hein.
Ouais.
C'est vrai qu'ils aient mis zéro pognon.
Il y a quand même le fait que c'est un jeu qui a quand même été pensé pour la Wii U à la base. Le,
tout à fait.
Le gameplay au gamepad. Je pense que le fait que Nintendo ait mis des pognons dans Rayman Legends, ça se résume simplement par le fait qu'ils ont lancé la campagne marketing, vu que la campagne marketing, enfin les pubs télé, ne mettaient en avant que la version Wii U.
D'accord, donc tu penses que c'était plus un soutien entre guillemets logistique, c'est-à-dire ils ont c'est eux qui ont payé la campagne de pub.
Ouais, voilà, ce qui se fait souvent même pour des jeux multi d'ailleurs. Enfin,
mais
bon,
pourtant,
en l'occurrence,
leur désaccord était sur la campagne de cube de pub, pardon.
C'est ce
sur la campagne de cul. Ça c'est le, ça fait partie des trucs un peu voilà.
Ah ça, non, mais ça sera vendeur.
Ça avait été évoqué à l'époque, mais ça a jamais été confirmé. Il me semble que c'était un membre des forums de Gamekult qui avait avancé ça. Donc c'était pas vraiment vérifiable le fait que Nintendo avait refusé de payer la campagne pub. Parce que je pense qu'à mon avis, s'ils avaient refusé de payer la campagne de pub quand le jeu était une exclusivité, ça m'étonnerait qu'ils aient accepté ensuite quand le jeu est devenu multiplateforme.
Bah, sauf si c'était pour le pousser un petit peu plus, mais enfin bon.
Ouais.
Enfin voilà quoi. Donc
en attendant, le fait de ne pas avoir payé la pub, ça leur a fait beaucoup de pubs. Donc finalement,
oui,
et pour zéro.
Ça leur a fait beaucoup de pubs. Comme disait quelqu'un que je connais très bien, bonne publicité, mauvaise publicité, c'est des conneries. L'important, c'est qu'on parle de toi. Et c'est vrai que là, de
pas
ce
faux.
Côté-là, on en a parlé. Donc Wonderful 101, même si c'est pas effectivement un jeu tiers, c'est quand même un jeu d'un studio externe. qui a bidé, mais qui a bidé bien comme il faut. Je pense que dans quelques années, les collectionneurs de, s'il y a des collectionneurs de jeux Wii U, ce sera un jeu super recherché, parce que il s'est vendu à quoi, 6000 exemplaires au Japon, un truc comme ça. Enfin, c'était juste ridicule.
Aux États-Unis aussi.
Aux États-Unis, ça a été absolument risible. Il y a peut-être qu'en Europe où ça a marché un petit peu, mais je suis même pas sûr.
Oh, je pense pas.
Et alors, il se trouve
qu'ils se vendent en plus sur la longueur.
Et alors, il se trouve que moi, j'ai parce que effectivement, j'ai eu une espèce de moment de sobriété ou de lucidité. Je sais pas exactement comment on peut appeler ça. Moi, j'ai précommandé Sonic Lost World. Au mois d'août, j'ai profité du bug de la Fnac pour l'avoir à 22€ au lieu de 60 et quelques. Et donc, un jeu exclusif à la Wii U, alors il est sorti aussi sur 3DS, mais la version 3DS est un petit peu différente, et qui est une bouse intergalactique, quoi. C'est-à-dire que, franchement, c'est tellement sous-bousique que je sais même pas quoi dire. Je suis pas un grand fan de Sonic, mais le dernier jeu Sonic auquel j'avais joué, c'était Sonic and the Secret Rings, qui était sorti avec la Wii, et qui était quand même pas un mauvais jeu, c'était pas un truc extraordinaire, mais ça se laissait jouer, c'était plutôt agréable.
C'est un bon jeu pour Sega.
On va dire ça pour te faire plaisir, c'était un bon jeu pour Sega. Donc c'est pas très gentil.
Ça laisse présager de ce qu'on va dire après.
Sur le sujet. Parler de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, les jeux Sega, ce qui reste.
Enfin, ce qu'il en reste, Sega, c'est vrai que c'est plus... Enfin, je sais pas, ils font des Yakuza maintenant, c'est à peu près tout ce qui marche.
Il y a quelques trucs qui marchent. Ils font beaucoup de jeux PC maintenant en Occident.
Les PC.
Ouais, les Total War, les.
Ils ont racheté The Creative Assembly, si je dis pas de bêtises.
Ouais, ça date un peu. Et plus récemment, c'est Relic, les mecs qui ont fait les jeux Warhammer.
Effectivement, parce que je me rappelle que c'est aussi eux qui éditaient Spartan Total Warrior, qui était quand même un jeu qui envoyait du pâté, quoi. Bah, rien que sur le titre, tu sens que c'est un truc qui va te remuer les tripes.
Pas passer à côté.
Faut pas passer à côté. Donc Sonic Lost World, moi, ça m'a fait me demander à un moment, mais qu'est-ce qui se passe avec les jeux tiers exclusifs? What the fuck, quoi. Parce que, voilà, entre un Rayman Legend qui finalement est plus exclusif, bon, ça c'est expliqué, on s'est déjà étalé dessus, on va pas revenir dessus. Mais un Wonderful 101 boudé, un Sonic Lost World complètement raté, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Nintendo ne fait pas assez de logistique, c'est-à-dire n'aide pas assez avec des ressources internes ces exclusivités-là? Est-ce que il leur file du tout de pognon, parce qu'il y a le soutien logistique, c'est une chose, le soutien technique, c'est une chose, le soutien financier, c'en est une autre. Alors est-ce qu'ils financent au bout, est-ce qu'ils financent pas, ou est-ce qu'ils ont des gros problèmes de calendrier et qu'ils forcent des studios à rusher? Enfin, je veux dire, Sonic Lost World, très honnêtement, avec 2 mois de développement en plus, les quelques petits défauts, enfin les défauts les plus obvious d'ergonomie et de choses comme ça auraient été réglés très très vite. Il y a un défaut d'ergonomie qui est très agaçant quand on commence à jouer, c'est que le bouton pour sauter, c'est le bouton A, et le bouton pour attaquer, c'est le A,
parce que avec tous les pads qu'il y a, on se mélange, c'est celui en dessous ou à droite?
C'est celui à droite.
Ah oui, qui est pour sauter, le B pour attaquer, c'est ça?
Alors non, justement, le problème, c'est que tu fais A plus A, ça fait un double saut, mais si tu fais A et que par hasard, il y a un ennemi qui est loqué dans le coin, si tu veux faire un double saut, ça fait pas un double saut, ça va l'attaquer. Juste, c'est gavant. Au bout de 10 minutes, t'as envie de balancer la manette.
Oh, le jeu de mots, c'est gavant.
C'est gavant.
Non, mais ça, c'est récurrent dans les Sonic depuis Sonic Adventure. C'est la mécanique du saut et qui lock ensuite sur les.
Oui, qui lock, mais sur les ennemis. Sur Sonic and the Secret Ring, par exemple, il fallait que tu donnes un coup de Wiimote. Si tu faisais un double saut, ça faisait un double saut. Si tu faisais un saut et que tu donnais un coup de Wiimote, ça faisait la homing attack, la fameuse attaque piquée, là. Et là, l'attaque piquée et le double saut, c'est le même bouton, quoi. Donc il y a des moments, t'as juste pas envie d'éclater les ennemis, t'as envie de te barrer, parce que t'en as marre, parce que le niveau, il est trop long. Bon, après, il y a d'autres problèmes dans le jeu, donc. Mais, C'est juste chiantissime, et c'est le genre d'erreur qui, s'il y avait eu un tout petit peu de panel de testing un tout petit peu plus long, je veux dire, t'as un mois de plus, c'est le genre de truc que tu corriges.
Je suis pas assez spécialiste des Sonic pour dire, mais je me souviens d'avoir fait le premier Sonic Adventure, et il y avait ce problème-là. Alors c'est un coup de main à prendre, c'est pas très intuitif, c'est clair, mais... voilà, Sega n'est pas Nintendo, quoi.
Alors, une auditrice me suggère Sega vend pas aussi. Effectivement, il vend pas. C'est pour continuer dans le jeu de mots. Hein. C'est, voilà. Merci, merci Muse pour cette merveilleuse suggestion par IRC. Non mais voilà, le problème c'est qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Nintendo force les gens, force les studios à rusher ?
Je pense pas qu'ils aient vraiment pour les éditeurs tiers. Alors excusez-moi, je suis un peu perturbé là.
Le chat est en train de faire pipi dessus.
Non. C'est ça. Il y a les premiers chiffres de Take-Two qui tombent.
Alors on verra ça dans quelques minutes si ça ne dérange pas. Donc ouais, ouais. Tu gardes ça sous le coude.
C'est pas pipi qui se fait dessus en fait.
Ah oh, les chiffres.
qu'est-ce que je disais? Non, je pense pas qu'ils aient vraiment. Ils vont pas non plus forcer les. Enfin, c'est les éditeurs tiers qui restent maîtres de leur planning, quoi. Nintendo peut pas forcer à Sega de sortir son Sonic
parce
à telle date.
L'exclusivité de Sonic, ils l'ont forcément acheté. Ça m'étonnerait que Sega, de son propre chef, ait dit on va faire un Sonic exclusif.
Je pense pas. Je pense pas qu'il l'ait forcément acheté. Je pense que. Ce qu'il faut voir, c'est que. Là, actuellement, chez les tiers, on a en gros. Il y a Sega et Ubisoft qui sont ceux qui soutiennent le plus la console. Et ils ont comme point commun d'avoir. D'être des éditeurs qui ont bien marché sur Wii. Il y en a, et même sur Wii, il n'y en a pas des masses, quoi, qui ont réussi à bien marcher.
Bah, à part Nintendo.
Et ouais, voilà. Et c'est-à-dire que Ubisoft, ils ont Just Dance qui marche surtout sur Wii. Sega, ils ont Mario et Sonic qui évidemment ne peut sortir que sur Wii, donc la question se pose pas. Et du coup, c'est dans leur intérêt que la Wii U marche. Donc c'est dans leur intérêt de soutenir Nintendo avec des exclusivités.
Donc tu penses que c'est un jeu pratiquement entre guillemets politique, c'est-à-dire les mecs se disent on fait une exclue, on espère que ça va bien marcher et que ça va aider à ce que la console étoffe un peu sa ludothèque, comme ça on est sûr que le Mario et Sonic qu'on va sortir, qui lui marche bien à tous les coups, va cartonner, enfin en tout cas il y aura un parc suffisamment installé pour que les gens achètent.
Je pense que c'est leur but en tout cas.
Mais d'un côté,
c'est ça le raisonnement derrière.
Si on prend le même raisonnement pour Ubisoft, on se dit alors, voilà, pourquoi est-ce qu'Ubisoft ne sort pas les DLC d'Assassin's Creed 4 sur Wii U, tu vois ?
Parce que, de toute façon, Assassin's Creed 4 va pas marcher sur Wii U, et ils le sortent juste dans la même optique de dire, voilà, on va essayer de soutenir un peu cette console, mais ils savent très bien que ouais. Ça va pas marcher, quoi.
Moi, je trouve ça assez étrange, parce que, par exemple, Assassin's Creed 3 et 4, je serais tenté peut-être de la faire sur Wii U justement pour l'apport du gamepad, mais s'il n'y a pas le jeu en entier, même si voilà, sans connaître à l'avance la qualité des DLC, je me dis que bon, a priori le 4, j'attendrais qu'il soit en solde sur Steam et puis basta quoi. Moi, si c'est pour avoir la version complète. Alors évidemment, peut-être que ma démarche à moi elle est marginale, mais
je me permets, l'apport du gamepad c'est quoi sur Assassin's Creed ?
Alors sur Assassin's Creed 3, ça te permettait d'avoir la carte en permanence.
Quasi tout le HUD en fait.
Voilà, déporter ouais. Quasi tout le HUD, bah, ça rend le jeu vachement plus lisible à l'écran parce que finalement, effectivement, t'as le HUD qui est sur le bas de l'écran et t'as plein de raccourcis qui étaient disponibles au touchpad et qui faisaient que tu te cassais quand même nettement moins le.
Nettement pour le combat
pour changer d'arme, pour en cours de combat par exemple, c'était quand même facilité. C'est comme finalement sur Splinter Cell Blacklist, c'est pas une révolution. Mais ça fait que t'as le petit coup de pouce qui fait que le truc est un poil plus ergonomique.
Ouais.
Alors après, ça reste. Enfin, je sais pas.
Ce que je veux dire, c'est que ça a pas
les DLC d'Assassin's Creed 3 étaient quand même très mauvais. Donc je pense que Assassin's Creed 4, on perd pas grand chose à pas les avoir.
Hein. Ah, probablement.
C'est des DLC, quoi, on s'en fout.
En plus, c'est des DLC, oui. Alors après, ça montre un non-soutien de l'éditeur éventuellement, mais.
Non, mais c'est-à-dire que, voilà, je pense que. Enfin, Ubisoft, en tout cas, à ce côté-là, de dire voilà, on va essayer de soutenir Nintendo parce que c'est dans notre intérêt que leur console marche. Et ils se cassent pas trop la tête non plus parce que de toute façon, autant le Rayman Legend a plus marché sur Wii U que sur les autres consoles, autant les autres jeux multi qui des suites de séries de toute façon déjà bien installées sur PS3 360 ne marchent pas. Presque obligé, j'ai envie de dire, parce que le public intéressé, il a déjà soit une PS3, soit une 360.
Le cœur de cible dans Assassin's Creed, voilà, c'est effectivement cible, plus, ouais. plus des gens qui possèdent une PS360 ou un PC, quoi.
Voilà.
Non, enfin, c'est le nom
même
Nintendo.
Sur PC, c'est pas évident.
Ouais, enfin, PC, c'est autre chose, mais le grand public, c'est surtout ça, c'est le grand public, je veux dire, un Assassin's Creed, ça vise typiquement le public qui achète des FIFA et des Call of Duty. et qui donc
le mec raciste quoi.
Mais non mais pas
le mec raciste quoi.
Non mais je parle du cœur de cible, je dis pas que c'est un mauvais jeu et oui, que non, non, mais et qu'un vrai passionné qui a beaucoup.
Je sais bien, mais effectivement le cœur de cible c'est oui, c'est le fan de jeux d'action un petit peu de base qui voilà, effectivement joue à des FIFA, des Call of Duty et de temps en temps va se faire un truc avec un Assassin's Creed qui est peut-être un petit peu plus haut de gamme que ce genre de jeu là.
Pour le coup, vu que Nintendo peut à peu près compter que sur lui-même pour la Wii U, est-ce qu'il y a un éditeur tiers duquel on peut attendre qui contribue à la relance activement, ou alors est-ce qu'il va falloir attendre que Nintendo balance son Mario Kart, des trucs dans le genre?
Je pense que, enfin voilà, même si, typiquement Ubisoft, eux, ils veulent que la Wii U marche, mais je crois que ils ont fait un truc avec Zombie U qui a pas super bien marché. Et je crois qu'ils vont plus casser la tête à faire des exclusivités sur Wii U qui vont
C'est celui que j'avais oublié au passage, c'est effectivement Zombie U aussi qui n'a pas atteint les chiffres escomptés. Bon, en même temps, c'est un des premiers jeux vendus, et pourtant pas si mauvais que ça. Enfin, il y a de très 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 bonnes idées derrière.
Ouais, mais pour mais,
ils ont dû le rusher pour la sortie de toute façon.
Je pense qu'ils
l'ont rushé, c'est un jeu de lancement, donc il a forcément marché.
Ils l'ont même dit qu'ils l'avaient rushé. Ouais, ouais, de toute façon, voilà.
Comme mais le premier Red Steel sur Wii. Hein.
Comme le premier Red Steel, le 2 est nettement meilleur que le 1. De toute façon, ça c'est.
Et pourtant, il a nettement moins bien marché.
Et il a nettement moins bien marché, oui. Pardon. En même temps, à la sortie de la Wii, on n'avait quand même pas grand chose.
Ouais,
donc,
voilà.
Ça aide.
Et puis, la Wii, à la sortie, avait cartonné. Donc, il y avait le côté vachement vendeur de dire voilà, un timbre et tout. Après, on s'est rendu compte que c'était tout.
Mais tu récupères Oscar, on t'entend plus très bien.
Ah, désolé.
Voilà, c'est pas grave, on t'a perdu pendant une seconde, c'est pas
du côté de Activision, bon, j'imagine que les Call of Duty se vendent pas des masses sur Wii U, surtout en comparaison des autres versions. Est-ce que les jeux qui visent plutôt une cible un petit peu moins âgée, comme les Skylanders par exemple, est-ce que ça marche ça?
Bah, ça marche pas terrible, mais c'est pas catastrophique non plus. Parce que. Ah, je me souviens plus, mais je crois que c'est par exemple le dernier Skylanders, là, au Royaume-Uni, je crois que c'était quelque chose comme 10% des ventes sur Wii U, ce qui est pas mal, parce que, par exemple, un Splinter Cell, ça va être même pas 1% des ventes, quoi. Donc,
ça, je confirme, vu le nombre de gens qui est sur le multi...
Ouais, voilà. donc, ce que Skylanders, Activision, c'est pareil, ils sont un peu dans la même situation, et c'est pour ça eux aussi qu'ils se font chier à faire un Call of Duty sur Wii U, alors que ça ne va pas marcher, mais ils sont pareils, ils soutiennent plus ou moins la Wii U parce que les Skylanders ont surtout marché sur Wii et que potentiellement ils marcheront sur Wii U.
D'accord, donc toi ce que t'es en train de dire c'est que finalement le fait que ces jeux-là bident, enfin le fait que les exclusivités des tiers sur Wii U bident, c'est pas grave parce qu'en réalité les tiers en question ne font pas des exclus pour faire vendre des machines et tout ça, ils font des exclus pour vendre leur jeu, leur licence qui marche bien sur cette machine-là.
Ouais, enfin de toute façon des exclus, maintenant il y a que Sonic hein, comme exclu d'éditeur tiers.
Ouais, enfin vu la qualité, ils auraient pu s'en passer. Hein. Enfin, moi sans déconner, il serait sorti sur 360 seulement, ça m'aurait fait économiser 25 euros.
Mais Sonic, ça fait quand même un petit temps qu'il y a plus grand... C'est peut-être le Sonic ici qui vient de sortir le Lost World, c'est peut-être le plus innovant de Sonic depuis 10 ans quoi.
Bah, innovant c'est pas le mot que j'aurais employé moi.
Innovant pour du Sonic.
Non mais d'accord, mais globalement, les mecs, ils ont bouffé des schtroumpfs, ils l'ont chié sur l'écran, et tu trouves ça innovant.
Ils l'avaient encore jamais fait.
Ils l'avaient encore jamais fait, putain, ça fait
Ils l'avaient encore jamais fait dans la Sonic.
Ils avaient fait Sonic Loup-Garou avant.
Ils ont pris des mécaniques qui viennent un petit peu de Mario Galaxy aussi, je veux dire...
Je me permets de remettre les choses en place. Comparer Sonic Lost World à Super Mario Galaxy...
Je dis qu'ils ont pris des mécaniques qu'on retrouvait dans Mario Galaxy.
Non mais attends, tu peux pas nier qu'ils ont mal pompé sur Mario Galaxy.
Oui, mais quand tu repompes un truc, essaie de le faire bien. Ça fait partie des règles de base.
Ah oui, mais on dit pas qu'ils l'ont bien fait, on dit qu'ils ont repris les idées.
Non, ils ont même pas repris les idées. Je suis désolé, Mario Galaxy. Non, même pas.
Il veut pas.
Mario Galaxy, t'avais une idée intelligente par niveau.
Mais non,
Sonic, t'as une absence d'idées intéressantes par niveau, c'est quand même impressionnant.
Mais non, mais justement, est-ce que ce serait pas le problème du jeu qu'ils ont voulu pomper le Mario Galaxy, sauf qu'ils le maîtrisent pas du tout?
Mais même pas, parce qu'en réalité, ça, si tu veux, de loin, avec un œil crevé et voilà, tu pourrais croire que c'est un Mario Galaxy. Mais vraiment, de dos,
mais non, mais tu comprends pas
de dos dans le brouillard.
C'est les conditions qu'il t'a fallu pour l'acheter déjà. Donc.
C'est déjà... Je vois ce que tu veux dire. C'est inspiré d'eux, mais c'est pas une question de pas le maîtriser. C'est même pas une question de pas le maîtriser, c'est qu'en réalité, ils ont entrecoupé des sections qui ont rien à voir avec du Mario Galaxy, avec des morceaux qui ressemblent à du Mario Galaxy. Mais Mario Galaxy, t'avais une cohérence globale du niveau qui faisait que de bout en bout, t'avais la même idée qui était reprise. Un niveau vertical de course de Sonic. Et puis à un moment, on te fait décoller d'une plateforme, tu rebondis trois fois et t'arrives sur un autre truc de course verticale. Au final, t'aurais un ascenseur pour le faire, ça ferait pareil, quoi. Ouais, donc c'est même pas que c'est pas maîtrisé, c'est que ça ressemble à rien.
Mais si, moi je pense, enfin, en même temps, je suis mal placé pour parler parce que j'ai pas joué à ce Sonic, mais moi j'ai vraiment l'impression que les mecs ont voulu s'inspirer de Mario Galaxy et que c'est un truc qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils auraient mieux fait de faire un truc comme le Sonic Color sur Wii, qui apparemment était très bien. Je l'ai pas fait non plus, mais apparemment celui-là était très bon.
Très bon pour un Sonic.
Oui. Mais enfin, au moins c'est un truc qu'ils maîtrisent, quoi. C'était du Sonic classique.
Non, celui qui marchait bien et qui effectivement était du Sonic classique et qui était. Alors, j'ai jamais été un grand fan de Sonic, mais c'est vrai qu'il y en a un qui marchait bien, c'était Sonic Generations. Celui-là, il y avait vraiment des idées intéressantes dedans. Et ils ont essayé de faire du Sonic pour du Sonic, ce qui fait que ça marchait. C'était un peu bâclé sur la fin, mais ça marchait pas mal.
La fin, ça commence à l'écran titre ou.
La fin vraiment, c'est-à-dire que tu sens qu'il y a eu un énorme effort sur les deux premiers mondes, genre, et puis les deux derniers, c'est vraiment lamentable, quoi. Et voilà, tu sens que de toute façon, les mecs savent que 90% des joueurs dépasseront pas le monde 3, donc ils se préoccupent pas trop. C'est l'impression que ça m'a donné, en tout cas. Mais bon, pour revenir à Sonic Lost World, je suis même pas sûr que ce soit une question de pas maîtriser, j'ai vraiment l'impression qu'à un moment, les mecs se sont dit, bon, il faut qu'on trouve un truc, enfin voilà, il faut qu'on mette une couche de peinture qui ressemble à peu près à quelque chose que les gens essaieront pas trop de gratter pour voilà, et ils ont fait de la merde. Et enfin, je suis désolé de le dire, il y a vraiment rien à rattraper dans ce jeu. C'est horrible de dire ça parce que les mecs ils ont essayé de faire quelque chose, mais il y a vraiment rien à rattraper. C'est juste pénible du début à la fin.
Il vaut juste ces deux Goombas sur 5, c'est ça?
Il va peut-être valoir 0 Goomba, quoi. Parce que je vois vraiment pas ce qu'il y a à sauver, même techniquement, c'est-à-dire que j'ai lu plein, moi, de tests a posteriori, c'est-à-dire que j'ai pas fini le jeu encore tout à fait, j'en suis à peu près à la moitié, mais j'ai été lire les tests après avoir fait la moitié du jeu. Je me suis quand même dit, bon, il y a un truc qui va pas, qu'est-ce qu'ils en disent les autres?
T'aurais dû les lire avant d'acheter le jeu.
Mais je l'ai précommandé, moi je l'avais essayé.
Ah
alors,
oui, c'est vrai, tu l'avais.
Nous, on l'avait essayé avec Oscar, d'ailleurs.
C'était déjà pas très encourageant.
Alors ça dépend, alors il y a un type de niveau qui marche très bien, c'est les niveaux où on est en vue de derrière finalement, qui sont les niveaux qui ressemblent beaucoup à l'introduction de Sonic Adventures par exemple, où effectivement t'es lancé à fond de balle, t'évites des obstacles, tu ramasses des anneaux, tu fais machin, ça marche bien.
Ouais, c'est même comme les tout premiers Sonic, les niveaux bonus.
Avec le half pipe,
ouais, voilà.
Il fallait ramasser les pièces.
Ça marche très très bien. Et après, il y a les niveaux en scrolling vertical, horizontal ou en scrolling en profondeur, là, machin, qui sont des véritables horreurs. Et le pire, c'est que j'ai lu quelque part que, oui, graphiquement, c'était bien tout ça, mais le machin, il rame, il y a des textures qui se lancent pas. Enfin, je sais pas à quel jeu ils ont joué, mais c'est pas le même, quoi. Ou alors, les mecs, ils ont fait les deux premiers niveaux qui, effectivement, ont pas de problème, mais à partir du monde 3 ou 4, il y a des textures qui se chargent pas. Tu restes trop longtemps à côté d'une fontaine, le jeu se met à ramer. Enfin, c'est... Il y a des trucs un peu délirants, quoi. Du coup, je me pose sérieusement la question de la sincérité de certains journalistes concernant ce truc-là, quoi.
Bah, il s'est fait pas mal dézinguer un peu partout, je pense, non?
Ouais, et moi je l'ai vu se faire dézinguer un peu partout.
Oui, mais je veux dire, c'est le genre de taille que j'ai jamais vu mentionné. Paru quand même un peu bizarre.
Quoi, les chargements textures et tout ça, ça
ouais, par
vu,
exemple,
vu ça nulle... ah, oui,
j'ai vu ça nulle part. Donc,
c'est peut-être ta console qui a un problème.
C'est peut-être ma console, c'est peut-être mon disque qui a un problème, comme c'est un disque en discount.
Le secteur de Moire Flash pile sur la texture de Sonic Lost World.
C'est peut-être ça, parce qu'il est bleu et moche et tout ça. Ça
doit être ça.
Bon, allez, on va se faire une première petite pause musicale, parce que là, je...
Est-ce qu'Oscar veut nous balancer des chiffres?
Parce qu'Oscar veut nous balancer des chiffres, donc on va faire une pause musicale très rapide. Comme c'est Halloween, j'ai pris un petit morceau de l'OST de Castlevania Vampire's Kiss sur Super NES, qui s'appelle Bloody Tears, qui est lui-même
magnifique.
Extrait de Castlevania Dracula X Rondo of Blood.
Et qui a été samplé par Army of the Pharaohs sur leur album Je sais plus comment.
Mais ça c'est bien, voilà, alors ça c'est de l'information intéressante du coup. Donc voilà, on va s'écouter ça, ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes et on se retrouve tout de suite après pour le tour de table de l'actu du coup qui est un petit peu décalé. À tout de suite.
Minute.
Nous sommes de retour. Ça marche à tous les coups. Et donc exceptionnellement, on va faire le tour de table de l'actu maintenant, et c'est Oscar qui va commencer parce qu'il a un sujet brûlant d'actualité brûlante. Oscar, on t'écoute.
Oui, alors c'est vraiment pas préparé, ça vient de tomber. Donc déjà, c'est les résultats de Tech2, les résultats trimestriels de Tech2.
Troisième trimestre.
Deuxième trimestre fiscal. Le trimestre qui s'est terminé le 30 septembre. Quoi.
Voilà, donc le troisième trimestre.
Oui, bon. avec évidemment la sortie du fameux GTA V, qu'ils ont écoulé à quasiment 29 millions d'exemplaires.
Donc, c'est pas mal pour des débutants. Hein.
C'est la grosse info quoi, qui résume un peu tout. Donc quasiment 29 millions. Pour donner une idée, GTA 4, qui était le record de la série, c'était 25 millions. Et 25 millions sur 4 ans, quoi, un truc comme ça.
Donc, on est sur un mois.
Donc, oh la vache, ça fait une sacrée...
Là, on est sur 2 semaines, quoi, même pas. 2 semaines alors,
ah oui, oui, 2 semaines.
Peut-être que ça va un peu plus loin. J'ai rien lu encore. Hein. Je vous cite les chiffres qui sortent du lot. Quoi. Après les chiffres, alors par contre, ils perdent de l'argent.
Comment ils peuvent perdre de l'argent quand ils avec 29 millions d'exemplaires vendus?
Le marketing.
Bah ouais, voilà, il y a le marketing, puis il y a le fait aussi que souvent les éditeurs, quand ils vendent les jeux au magasin, les magasins payent les jeux 3 mois plus tard.
Ah oui, d'accord, effectivement, il y a le crédit inter-entreprise voilà. qui joue un petit peu.
Parce que sinon, les magasins n'auraient pas une trésorerie suffisante pour gérer
tout. Tout à fait, oui. De toute façon, comme ça se fait classiquement dans une entreprise, tu factures et t'es payé que 45 jours ou 60 jours plus tard.
Ouais, voilà, exactement.
Je profite pour une petite anecdote. Enfin, ça fonctionne comme ça en Belgique, j'imagine qu'en France, c'est à peu près pareil. Les grandes surfaces arrivent à négocier des délais de paiement beaucoup plus longs que les 60 ou 90 jours que qu'arrivent à obtenir les petits détaillants. C'est encore moins évident par rapport aux grandes surfaces.
La loi, que ce soit en Belgique ou en France, est à peu près la même, c'est-à-dire que la durée légale et de paiement est à peu près la même, c'est entre 45 et 60 jours. Je crois que c'est 60 jours en Belgique, c'est 45 jours en France, mais elle n'est pas respectée. Il faut le savoir, parce que la loi dit que ça doit être payé en moins de 45 jours, et la moyenne en France, ça doit être 47, un truc comme ça. Donc, de toute façon, la moyenne est 2 jours de retard de paiement, quoi. C'est un peu... Ouais. Bref, bon, c'était du détail. Est-ce que tu as d'autres chiffres intéressants à nous citer, Oscar? Sinon, on va te laisser partir sur la conférence, parce que je pense que tu as hâte d'écouter ça.
Ouais, je vais... Non, là, comme ça... Donc, je vois des chiffres qui sont pas très cohérents...
En plus, ils publient des conneries. Il y a 101% du titre de joueurs qui ont acheté GTA, qui l'ont acheté.
Non, mais... Encore qu'ils fassent des pertes, mais des grosses pertes. Hein. Il est question de 124 millions.
Mais c'est une grosse perte, ça. C'est une petite perte.
Bah, c'est. Enfin, bon.
Bah, oui, si tu les avais, tu serais content.
Non, mais c'est surtout le chiffre d'affaires.
Ça de ma poche hier, moi aussi.
Le chiffre d'affaires est en baisse, ce qui est très étrange.
Alors après, ça, ils vont peut-être l'expliquer pendant la conférence, ça, justement.
Ouais, ça, non, mais ça doit être tout simplement expliqué dans le texte que j'ai pas le temps
de lire.
Au pire,
tant qu'on est en direct, on les appelle. Hein.
Bon, si tu veux, alors on l'appelle. On fait ça, on l'appelle. Je vais chercher mon portable,
tout,
on les appelle. Bon, Oscar, on va te laisser y aller. Merci beaucoup pour la nouvelle en direct. Laisser. Et puis, ben.
Bah, je vous souhaite une bonne fin d'émission.
Voilà, merci.
Allez, casse-toi.
Ferme bien la porte du bar, il fait froid.
Voilà. Et donc,
on va enchaîner de vite sur. Tour de table de l'actu,
voilà. Milieu
d'émission. Tour de table de l'actu, mais attends, on a un invité, bah on a
oui,
un invité squatter.
Pendant qu'Oscar partait, quelqu'un est arrivé.
On a Antix de Nintendo Domain qui vient d'arriver. Salut Antix.
Salut.
Voilà, alors est-ce que t'as une actu Antix, comme ça du coup tu vas commencer.
Super, je me squatte et en plus je commence. Moi j'en avais une, alors c'est une petite actu, c'était simplement l'arrivée de Ikaruga, le jeu de Treasure sur Steam.
Oh.
Je trouvais très intéressant, alors ce qui était assez étrange, c'est que le jeu est passé par Greenlight. Et le programme pour que les indépendants, avec le vote des joueurs, puissent être vendus sur la plateforme de Valve. Alors que bon, on parle quand même d'Ikaruga, un jeu qui a une très très bonne réputation. C'était un petit peu étrange qu'il passe par Greenlight, mais il n'y a eu aucun problème, ils vont être publiés. Alors ils ont dit que c'était fin octobre, début novembre, quelque chose comme ça. Donc c'est très très bientôt. Moi j'ai hâte de repayer le jeu parce qu'il est absolument génial. Et je trouvais ça intéressant d'en parler parce que ça montrait que les Japonais, on avait déjà quelques gros éditeurs comme Capcom sur Steam, et que même les développeurs plus modestes commencent à s'intéresser de plus en plus aux jeux sur PC, donc c'est assez intéressant comme tendance à l'heure actuelle.
Et puis effectivement, et en plus Ikaruga est un excellent jeu, extrêmement difficile, mais vraiment prenant... Ça prend vraiment au trip et ça vaut vraiment le coup d'être joué. Si certains de nos auditeurs se posent la question, il est sorti sur GameCube et la version GameCube coûte pas si cher que ça, c'est assez facile à trouver.
Il est ressorti sur Xbox Live Arcade.
Et il est ressorti sur l'Xbox Live Arcade il y a peu de temps, donc c'est un jeu qui est quand même assez facile à se procurer à un prix raisonnable.
Voilà, je pense que sur Steam ça va être genre 10€ comme sur Xbox.
Voilà, l'avantage de la version PC, c'est que pour ceux qui ont un écran qui peut pivoter, ils vont adapter la résolution pour pouvoir jouer dans le sens vertical.
Exactement, ils vont pouvoir jouer dans le sens original du jeu, effectivement, qui est en sens vertical. Alors c'est vrai que sur GameCube, le problème, c'est que tu peux jouer en 16/9, mais t'es quand même obligé d'aller... Enfin, faudrait mettre ta télé sur le côté, ce qui est pas forcément toujours très pratique.
C'est sûr.
Tout maintenant avec les écrans plats.
Attends, moi j'avais trouvé une fixation murale qui permettait de faire de la rotation à 90 degrés de l'écran.
Ça, c'est très sympa, ça.
Un peu violent.
Si ça existe encore, je suis preneur de la référence pour l'avenir.
Bah écoute, si tu veux, j'essaierai de te la donner.
Ouais.
De la
on apprend plein de trucs sur le jeu de joueur.
Ouais, ouais. Alors, moi je vais enchaîner avec un petit sujet d'actu un peu rigolo. Vous l'avez peut-être vu passer si vous suivez le Twitter du Dojo. Il y a un monsieur qui a fait Windows XP pour Famicom. Alors, c'est pas un vrai émulateur de Windows XP parce que ce serait beaucoup trop compliqué à faire sur une architecture de NES. Ce serait juste infernal.
NES avec des écrans bleus, c'est pas évident.
Ouais. Non mais émuler complètement un OS de ce type là c'est juste impossible, enfin c'est trop compliqué, mais le monsieur a repris le style graphique de Windows XP, il a tout repris, il a même fait quelques-unes des applications genre la calculette, le démineur, tout ce bazar là.
C'est du vol,
c'est du vol de propriété intellectuelle de Microsoft. Mais voilà, c'était, je trouvais ça rigolo. Alors c'est pas un vrai émulateur de Windows XP, c'est une cartouche récente, hein, c'est un truc qui a été fabriqué récemment sur des cartouches de reproduction. Mais on peut l'acheter, je crois que ça se vend 80$ à peu près, et bon, c'est surtout rigolo de voir voir Windows XP s'allumer sur une Famicom ou sur une NES, c'est assez amusant. Voilà, bon, c'est un tout petit sujet, mais je trouve ça rigolo. Medus, tu voulais nous parler d'Iwata Demande, si je dis pas de bêtises.
Oui, en fait, aujourd'hui vient d'être publié sur le site de Nintendo America, un Iwata Demande sur Wii Sports Club, donc qui va voir le jour, j'ai déjà oublié quand, je crois que c'est pas ce jeudi-ci, c'est le jeudi d'après. Enfin, c'est ce jeudi-ci au Japon, et c'est le suivant aux États-Unis en Europe. Et comme il est encore qu'en anglais et qu'il n'y a pas encore la version française, je l'ai lu et j'ai relevé quand même quelques chouettes trucs. Alors déjà, le premier chouette truc, si vous l'avez vu passer, enfin, il est encore dans le Twitter du dojo, vous pouvez le regarder, c'est Iwata qui joue à Wii Sports en costard. Quand même, le truc...
Ah oui,
ça vaut de l'or.
Il est tellement sexy, mais il est tellement sexy. Moi, j'ai hâte qu'il fasse We Fit You, c'est un truc où tu transpires bien, mais avec son costard cravate. Quoi. Ça, cette vision me fait juste triper.
Excellent. Non, mais
là,
il est
claqué sous les manches.
Il est vraiment énorme, mais alors il est
gigantesque, quoi. Le mec, je suis sûr, Iwata, il fait une énorme séance de transpi en costard cravate sur We Fit You. Il essuie sa sueur avec une serviette, mais il la met sur eBay, mais il va trop péter les scores, quoi.
Carrément. Mais justement, figure-toi que Iwata a joué au tennis à un moment de sa vie, on sait pas trop quand, il donne pas de détails, on apprend ça dans le truc. Du coup, il est à fond dans le jeu et il explique qu'en fait, à la sortie du premier Wii Sports en 2006 en même temps que la Wii, il avait repris le jeu chez lui le soir, le jour de la, enfin, tu vois, quand le produit était fini, il avait joué à fond et dit qu'il suait en jouant parce qu'il était vraiment à fond dedans. Du coup, il était très content. Alors voilà, alors là-dedans, on apprend plein de choses étonnantes. La première chose étonnante qu'on apprend, c'est qu'en fait, Nintendo n'a pas fait le jeu tout seul, Wii Sports Club, alors que ça avait été le même producteur sur le jeu, il s'appelle Shimamura. En fait, ici, ils ont fait appel à Namco Bandai, Bandai Studio, donc qui est une studio de Namco Bandai, qui est en 2012 et qui est issu en fait du rachat des divisions Asie de Infogrames et Atari. Donc c'est des anciens sous-français qui sont qui ont participé au développement de Wii Sports Club. Alors évidemment,
bravo, c'est du propre.
Il y a encore des gens des deux premiers Wii Sports qui ont collaboré avec Namco, mais grosso modo, ça a été à peu près du moite-moite apparemment. Et voilà. Donc leur plus gros truc, leur plus gros challenge, ça a été évidemment le mode en ligne sur le tennis, puisque ça demande de la synchronisation. De la synchronisation à 4 joueurs. Alors, ils voulaient vraiment qu'on ait l'impression en ligne de pas affronter, vu que les personnages dans Wii Sports, ils se déplacent, enfin, dans le tennis, ils se déplacent tout seuls et il y a juste le joueur qui fait le mouvement de raquette. Ça avait l'air un peu moins un peu plus humain que boat. Ils ont en fait bien bossé sur le netcode pour qu'on ait en temps réel les petits mouvements qu'on fait à Wiimote et qui se retranscrivent en jeu, même quand on fait rien. Ça passe par le réseau aussi, du coup ça va être assez sympa. Et c'est Iwata qui a insisté apparemment pour que le mode en ligne soit bien bossé. Je voulais en premier, Iwata, voir le mode en ligne du bowling et du golf fini, mais finalement les mecs ils en ont eu rien à foutre, ils ont fait le tennis en premier parce que c'est le plus dur. Voilà. Et du coup Iwata est très très... et alors, chose sympathique... Donc vu que pour le tennis et le golf, bah, ils ont tout fini. Après, ils voulaient commencer par. Enfin, Iwata est assez intéressé qu'on lui parle de la boxe. Non, pour la boxe, le mec lui a dit, écoute, la boxe, on est vraiment nulle part, donc faut en avoir de suite. À mon avis, ce sera pas un des jeux qui sortira directement. Alors, on apprend aussi que via le Spot Pass. Enfin, si vous avez le Spot Pass activé sur la Wii U, donc qui permet de recevoir du contenu suggéré par Nintendo depuis la dernière mise à jour, bien le Wii Sport sera sur la console préchargé directement le jour de la sortie, donc il n'y aura pas besoin d'aller mettre télécharger et puis d'attendre pour jouer.
C'est une excellente initiative, parce que du coup, ça veut dire que tu auras Wii Sports pour tous les gens qui l'ont activé lors de la dernière mise à jour, tu auras Wii Sports Club qui sera directement sur le menu de ta Wii U sans que tu fasses rien.
Il pèsera
un giga. Cool. Il en pèsera, plus, 1 giga, enfin, c'est pas énorme.
1 giga 3. 1 giga 3, ça pèse. Le tennis plus le golf. Et, le tennis plus le bowling, pardon. Les premiers qui arriveront. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont ajouter un sport, donc pour le tennis et le bowling, qui vont arriver là, donc dans 10 jours, on va avoir 24 heures d'offert sur les deux sports. Et à chaque fois qu'ils vont rajouter un sport, on aura 24 heures d'offert sur l'ensemble des sports, même ceux qui étaient déjà sortis avant. Je trouve ça assez sympa. Pour
c'est le fameux truc dont on avait parlé il y a deux semaines, de ce nouveau modèle de vente un petit peu,
ça,
un
voilà,
petit peu particulier.
2 euros par sport, définitivement, ou alors on peut payer pour avoir une session de 24 heures. Surtout.
D'accord. Alors, Sierra, il me semble que tu avais
le dernier petit
ah,
détail
pardon,
qui tue.
Excuse-moi.
Je dernier petit détail qui tue. Là, c'est le dernier, il sera chouette. Ça concernera le golf, donc il ne sera pas disponible dans 10 jours plus tard. On avait vu à la présentation de la Wii U, un concept qui consistait à mettre au sol le gamepad pour golf, de sorte à ce qu'on ait le gamepad donc vu du dessus, avec la baballe sur le, comment on appelle ça, le putter.
Non,
l'endroit où on pose la balle.
Ah, le tee.
Voilà, le tee, donc on verra tout ça du dessus. Et pour le golf dans Wii Sports Club, ils ont repris en fait ce truc-là, donc tu poses ton gamepad par terre et tu devras bien viser avec la Wiimote pour...
Ou tu prends un vrai club swing, de golf et tu swings directement dans le gamepad.
Et t'envoies le gamepad dans la télé.
Comme ça, tu fais deux.
Ça peut être pas mal.
D'une pierre,
voilà.
D'un coup.
Grosso modo, c'est tout ce qu'on apprend. Enfin, on apprend grosso modo tous ces trucs-là. Dans le Iwata demande qui va être
traduit en français très bientôt, comme d'habitude, je pense.
Allô?
Mais voilà, Méduse, on t'entend, t'as des petites coupures. Je te le dis, c'est pas dramatique.
Bon, je vais régler ça pendant que Cyrard fait son blabla.
Alors. Voilà, alors Cyrard, ton blabla.
Oh, il est 21h41, est-ce qu'on passerait pas
c'est comme tu
à
veux,
la troisième partie?
C'est comme tu veux, moi je pourrais tout de suite la troisième partie, vu qu'effectivement on a trois sujets cette semaine, donc c'est vrai que ça fait quand même
beaucoup. On fera mon sujet dans deux semaines, il sera encore d'actu.
On fera ton sujet dans deux semaines, il sera encore d'actu. Et ben du coup, quelqu'un veut meubler pendant que je me bats avec la console.
C'est pour la pause musicale, c'est ça?
C'est pour la pause musicale. Donc on va se quitter un autre. On va s'écouter. On peut s'écouter aussi si vous voulez, mais ça va peut-être moins
fun.
On va s'écouter. On va s'écouter un petit morceau qui a été composé par Robin Binland et Graham Northgate de Rareware.
Oh yeah.
Qui était pour la bande originale de Killer Instinct, et qui s'appelle Tooth and Claw, qui est le fameux thème de Sabrewulf. C'est marrant parce que je sais pas pourquoi j'ai un accent un petit peu merdique ce soir. Ça fait plaisir.
Ah, parce que les autres soirs tu crois que c'est mieux?
Non, mais d'habitude j'ai l'impression.
D'accord, que tout va bien.
Un petit peu, voilà. Et donc c'est le titre qui fait vraiment énormément penser à un film d'horreur avec de l'orgue, avec des cris de loup-garou, avec des choses comme ça. Donc voilà, ça dure un petit peu. Tout à fait. Ça dure un petit peu plus de 3 minutes et on se retrouve tout de suite après. À tout à l'heure. Et nous voilà de retour. Ils sont tous bien synchrones. Et donc, à l'occasion d'Halloween, et parce que c'est l'émission numéro 13, je fais très très mal. Voilà. Ça suffit maintenant. Je vous demande de vous arrêter.
Nintendo Joe Evil.
Ok, bon, je vois que c'est très très bien parti. On va évoquer ensemble pendant quelques petites minutes, je sais pas exactement combien, parce que c'est un sujet 3, un petit 4. Peu antenne libre, donc c'est toujours un petit peu compliqué à gérer.
Des jeux d'horreur.
Voilà, des jeux d'horreur ou des passages très horrifiques ou très très stressants dans des jeux qui vous ont marqué pendant votre enfance ou votre adolescence, ou même plus récemment, hein. J'ai rien contre les adultes normaux. Mais voilà, on va essayer d'évoquer un petit peu des choses qui ont été perturbantes ou très étranges, ou des expériences qui vous ont un peu marqué, ou vous avez vraiment fait peur devant un jeu. Alors déjà, est-ce que ça vous est arrivé à n'importe qui là dans la magnifique barre du Dojo Bar, d'avoir eu un moment où vraiment vous avez eu la trouille, pas le jumpscare, genre il y a un zombie qui sort d'un placard, mais vous avez vraiment eu flippé d'un jeu, à en faire des cauchemars ou des choses comme ça? Ou est-ce que ça vous est jamais arrivé?
Alors moi j'ai eu un moment vraiment flippant. C'est le moment où la sauvegarde s'efface dans Eternal Darkness.
Alors ça, je reconnais que alors moi j'allais citer Eternal Darkness aussi, j'ai eu un moment ultra flippant où la manette répondait plus.
Ah oui, je l'ai eu aussi avec tous les zombies qui t'arrivent dessus, je crois quelque chose comme ça.
Et le, on sort l'artillerie lourde directement, Eternal Darkness c'est quand même... C'est une sommité quand même.
C'est une sommité dans le cassage du quatrième mur, c'est-à-dire effectivement le, impliquer physiquement le joueur. Mais moi je me rappelle le moment où j'ai eu le truc, la manette ne répond pas, ça faisait genre... une heure que j'avais pas sauvegardé, donc j'étais, mais en... je te jure, j'ai une transpiration, l'adrénaline, c'était complètement dément, quoi. Et je vois tout à fait ce que ressentait Antix avec le, l'effacement de sa sauvegarde.
Quand t'as la télé qui s'éteint brusquement, quand mais tu joues dans le noir, c'est saisissant, quoi.
Oui, c'est saisissant, mais ça c'est plus crédible aujourd'hui, le problème il est là, ouais. C'est que les
j'ai
effets...
Pas, j'ai pas fait le jeu en anglais, Eternal Darkness, mais effectivement, vu que tout est axé, grosso modo, sur la perception et la santé mentale, vraiment, c'est assez énorme à ce niveau-là. Et alors, j'ai joué seulement que quelques heures, mais j'ai joué la nuit, avec le son bien à fond, tu vois. Et c'est vrai que quand t'as absolument aucune lumière environnante et que tu te retrouves sur des moments stressants, que la télé qui s'éteint, bouf, d'un coup net comme ça, c'est assez saisissant, quoi.
Syrah, est-ce que tu t'avais, toi, un moment dans un jeu qui t'a vraiment, vraiment fait flipper ?
Non.
D'accord. Donc Syrah est un homme d'acier.
Non, moi j'ai jamais peur.
C'est pas une fillette.
Même dans Luigi's Mansion. Quand même, Luigi's Mansion.
Attends, Luigi's Mansion, vous rigolez, mais il y a vraiment des. Alors, ça reprend les, on va dire les grands classiques de l'horreur. Ça reprend des thématiques et finalement des gimmicks qu'on a vu dans les films Universal des années 30, les films de la Hammer des années 50-70. Donc les gens qui l'ont fait ont quand même une certaine culture cinématographique, et ça reprend quand même aussi des codes de l'horreur un peu plus récents. Il y a une salle dans laquelle Luigi regarde dans une maison de poupée qui ressemble au manoir, et dans lequel il se voit dans la fenêtre en question. C'est très marrant, mais ça reprend des codes très récents de films comme Poltergeist ou des choses comme ça. Donc c'est assez amusant de voir ces thématiques-là qui reviennent. Donc Luigi's Mansion n'est pas un jeu flippant en soi, faut quand même pas exagérer.
Là, c'est le 2 dont tu parles.
Non, même dans le 1, je crois qu'il y a un truc comme ça.
Parce que j'ai pas le souvenir, mais.
En fait, ce qui est dommage dans Luigi's Mansion, c'est que finalement, tu t'attends à tout. Et dans le 2, parce que je me souviens plus trop du 1, mais dans le 2, il y a effectivement un moment où tu regardes à l'intérieur de. C'est là où il y a le train en jouet, là.
Tout à fait.
Et en fait, il y a un. Il y a je pense, le roi Bou qui, à ce moment-là, en fait, se retourne et te regarde de manière surprenante. Et en fait, c'est...
Tu t'attends pas à ça.
Bah pour moi c'était attendu, quoi. Et
ouais, c'est classique.
Mais c'est vrai que tu t'y attends pas, ça peut être un peu flippant. Puis avec un plus gros écran, parce que c'est vrai que sur la 3DS c'est.
Ah bah oui, fait profondeur sur la 3DS.
Ah ouais. Maintenant on est actif quand on joue.
Luigi's Mansion est plutôt loufoque que vraiment.
Oui c'est pas voilà. Mais après il faut différencier les jeux qui sont vraiment des jeux d'horreur au sens propre. C'est-à-dire des jeux qui cherchent à être horrifiques, soit par le gore, soit par le stress imposé aux joueurs, soit par la thématique qui est très malsaine, et les jeux qui reprennent le thème de l'horreur. Je veux dire, dans n'importe quel jeu des années 80 et 90, t'avais toujours n'importe quel jeu de plateforme, t'avais un monde qui avait comme thème Halloween, le cimetière, les chauves-souris, les
ouais, même dans Banjo-Kazooie, il y en avait un, dans Banjo-Tooie, je sais plus, dans Banjo-Tooie, je pense, c'était.
C'est Banjo-Tooie, il y avait un... Voilà, t'as toujours des jeux qui font ça. Et toi, Méduse, là, tu nous as pas parlé, là, c'est Eternal Darkness, toi aussi, le gros moment de stress et de
flip. Je sais pas, parce que à la base, quand j'étais môme, j'étais assez peureux, tu vois. Donc, tout ce qui était horreur et tout ça, j'ai toujours gardé ça un peu en horreur, justement. Ouh. Et avec le temps, je me suis, à part quelques petites expériences, mais je suis vraiment jamais mis. Par contre, j'ai quand même. Moi, c'est plutôt les moments en fait où tu sens la tension monter et t'as toujours l'accompagnement de la musique qui va avec, évidemment, c'est la petite musique grinçante et tout. Tu dis forcément il va se passer un truc, tu vois, mais tu sais pas il va arriver dans les 2 minutes, mais tu sais pas quand. En fait, et c'est le moment où ça arrive qui est toujours surprenant.
Oui, c'est genre plus des moments d'angoisse en fait que de ouais, vraie voilà. Frayeur. Et moi, il y a un truc que j'ai noté là en préparant l'émission
bien à l'avance.
Absolument, il y a 10 minutes et je me disais que par exemple la dernière journée de Majora. Où t'as une musique ultra angoissante, t'as la lune qui est quand même oui. Super bien modélisée,
ça,
avec
ça,
un regard de taré.
Oui.
Et ça, c'est flippant. Et ma femme m'a fait des cauchemars à chaque fois qu'elle joue.
C'est vrai.
c'est des passages angoissants comme ça où finalement, c'est rien de, ça te fait pas peur, quoi. Mais c'est l'angoisse. Et puis après, si t'es tout seul chez toi, tu commences un peu à te dire, bon, je vais allumer la lumière là.
Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que Majora's Mask est un jeu qui est extrêmement angoissant.
T'as l'impression du temps, quoi, sur Majora's Mask.
T'as la pression du temps. C'est un jeu qui est presque claustrophobe.
Très étrange, en fait, de manière générale.
Tout à fait.
J'ai la vallée des morts de Ikana, par exemple, t'as le père qui est transformé en momie et quand même assez représentatif du jeu, je trouve.
C'est vrai que c'est très, très malsain. T'as énormément de personnages. Le vendeur de masques extrêmement malsain. Le joueur d'orgue de barbarie extrêmement malsain.
Ouais.
Mais même, t'as une claustrophobie qui est double parce que tu peux pas échapper à ce destin-là. C'est-à-dire, tu peux pas échapper au fait que la lune va tomber sur la Terre. Donc, même si le monde est relativement grand, finalement, il devient tout petit à cause de ça. Et t'as effectivement la pression temporelle en plus. Donc, c'est un jeu qui est, je trouve, extrêmement angoissant dans son déroulement. Je suis tout à fait d'accord avec Cyril que le dernier jour est... Le deuxième jour est très dépressif, en réalité. Il pleut, enfin, c'est... Et le dernier jour est très angoissant. Et la musique est extrêmement angoissante. Elle a des rythmes beaucoup plus dissonants. C'est le même thème qui est repris sur les trois jours, sauf que sur le deuxième jour, on a beaucoup plus de violons, de choses très lentes, très, très dépressives, et sur le dernier jour, on a énormément de rythmes dissonants, les basses deviennent plus importantes, enfin, il y a vraiment toute une contribution sonore au jeu qui fait que, effectivement, le dernier jour est très...
Je pense souvent que ce soit pour les films ou les jeux, l'atmosphère sonore conditionne extrêmement tous les moments qui sont assez tendus comme ça. Je pense à Left 4 Dead, que ce soit le 1 ou le 2, peu importe. Quand tu approches d'une witch, tu entends juste la witch de loin qui fait ses petits cris, enfin, avec sa petite voix, je sais pas trop, un petit peu aiguë. Et tu sais forcément qu'il y a un moment où si toi tu fais trop de bruit, elle va commencer à te rusher dessus, et quand elle te rush dessus, il faut vite la dézinguer parce qu'elle est extrêmement forte, en fait. Voilà. C'est vrai que ces moments où t'as le son qui est extrêmement important parce que t'essayes de pas faire de bruit, t'éteins la torche, tu vois.
Tout à fait. Le son a une importance absolument primordiale dans ce genre de cas. Je vous propose une capitale, ouais. Je vous propose une petite expérience que vous pourrez refaire chez vous. Voilà, ça c'est le moment un petit peu petite expérience. Il y a un film japonais qui est sorti un petit peu après Ring. Je pense que tout le monde a vu Ring.
Non.
C'est un grand. D'accord, donc vous n'êtes pas du tout cinéphile.
Si, bah, Ring,
pas film d'horreur.
Pas film d'horreur. Bon, Ring, c'est un film que moi, un de mes colocs, par exemple, m'a ruiné en juste 2 secondes. Mais éventuellement, je vous raconterai cette anecdote en off, comme ça, pour en faire un truc un peu rigolo. Il y a un film qui s'appelle Dark Water, qui est un film japonais qui a dû sortir au début des années 2000, et qui est un film particulièrement angoissant, et vraiment bien pire que Ring, et bien, bien plus difficile...
Attends,
regarder.
Je redémarre BitTorrent.
Alors, je vous conseille de récupérer d'une manière ou d'une autre, légale ou pas. Et la dernière scène, il y a une scène à la fin qui est absolument atroce et qui est extrêmement difficile à supporter. Moi, j'étais en train de le regarder avec un de mes colocs qui est très 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 angoissé, qui a énormément de mal à supporter les films d'horreur. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé le son au milieu de la scène et c'est-à-dire on perd 99% de l'effet. Mais vraiment,
oui.
Tu n'as plus rien. C'est-à-dire que là, tu t'es limite en train de rigoler. C'est-à-dire que tu rajouterais la musique de Benny Hill. Ça rendrait pas du tout. Mais même le truc sans le son est du coup pas du tout flippant, mais c'en est même ridicule parce que finalement, tu n'as plus l'oppression sonore autour de toi. Tu as juste l'image un petit peu ridicule parce que c'est pas un film à très gros budget et que les effets spéciaux sont pas extraordinaires. On le regardait la nuit tout seul,
souvent
lui deux,
t'as moins de bruit ambiant non plus, donc
j'étais sur ses genoux, on mangeait un lait fraise
normal,
un lait fraise dans une main, et enfin bref, c'était
pour en revenir, justement j'ai évoqué Left 4 Dead avec la lampe torche, en pensant à ça tout à l'heure, donc j'ai pensé à lui Just Mention où il y a aussi une lampe torche. On a aussi deux jeux qui sont relativement connus, qui ont une lampe torche aussi, qui sont Alan Wake et Fragile Dreams sur Wii.
Et moi j'aurais dit Doom 3 aussi, dans lequel ils n'ont pas inventé le scotch pour coller sur le fusil.
Oh, ouais, mais les FPS, il y en a plein où il y a une lampe torche. Mais c'est vrai que dans Doom 3, c'était peut-être le premier FPS où le moteur permettait des shaders. La lampe avait vraiment de l'importance, quoi. Et je demandais à Méduzette ses impressions, vu qu'elle a fait Fragile Dreams et Alan Wake, et elle disait que dans ces deux jeux-là, donc elle n'est pas trop non plus ce qui est horreur, mais vu que le scénario était assez bien construit, particulièrement dans Alan Wake, le scénario permet, enfin, vu sa bonne construction, ça permettrait de rentrer à fond dans le jeu, même si c'est pas pour Fragile Dreams, par exemple, c'est pas totalement horrifique, mais t'as du coup quelques effets de surprise ou inattendus qui sont vraiment liés au scénario. Le côté lampe de poche plus, enfin, lampe torche, scénario, ça construisait un truc qui a pris pour elle, quoi. Voilà.
D'accord. Bah écoutez, c'était un bon petit tour, mine de rien, chacun. Alors on a évoqué Eternal Darkness, on a évoqué quelques autres jeux comme ça, Majora's Mask, qui effectivement est très angoissant, Left 4 Dead, on a parlé un petit peu d'ambiance sonore. C'est vrai que l'importance de l'ambiance sonore dans ce genre de situation est
intéressante. Ouais, à propos de l'ambiance sonore, là sur le forum, on est 2-3 à idéaliser le jeu The Walking Dead de Telltale, et en fait ils ont beaucoup joué là-dessus. Ça participe énormément à l'ambiance, parce que ce jeu, en fait, en termes de gameplay, c'est vrai pas super, mais tout est dans l'histoire et l'ambiance. Et ils ont beaucoup joué là-dessus, où tu sais, les bruits de violon qu'il y a dans les films d'horreur, en fait, donc ils te mettent ça, et puis en fait, ah non, il y avait rien. Et en fait, t'as stressé pour rien, et ils jouent là-dessus, et vraiment, la musique, finalement, c'est ça qui joue vraiment.
Tout à fait.
On parlait de FPS, moi je me souviens, je l'avais noté sur ma petite feuille. Mon calepin 1.0. je me souviens que finalement, moi, le premier jeu qui m'avait vraiment fait un peu stresser comme ça, c'était Wolfenstein 3D. Et en fait, moi, j'étais vraiment tout petit, parce que ça compte, ce jeu-là, ça a plus de 20 ans.
Facile 20 ans, ouais.
Et en fait, à chaque fois que j'ouvrais une porte, j'étais en flip qu'il y a un mec derrière. Et bon, maintenant, on est super blasé, parce que t'es dans un truc comme ça.
T'as un mec derrière chaque porte, toute
façon.
Il y a Amnesia, qui a à peu près 2-3 ans maintenant, qui fonctionne assez bien sur tout ce qui est surprise et horreur. Je l'ai pas encore fait, mais j'avais vu une vidéo ou l'autre, et franchement, ça avait l'air assez
difficilement supportable. Très 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 compliqué, ouais, d'arriver à le passer, celui-là. Vraiment, moi j'ai essayé, c'est très compliqué. Il y a d'ailleurs une expérience assez amusante aussi. Alors, dans le même genre, les gens un peu tarés qui font des trucs rigolos. Le genre d'expérience que j'aime bien. Donc, je vous conseille l'expérience Darkwater sans le son. Ça, c'est une petite expérience amusante à faire. Il y a alors Amnesia, justement, de Dark Descent, on parle bien du même.
Ouais, pardon.
C'est bien celui-là.
C'est un jeu français, je crois, en plus.
Je crois que c'est un jeu français. Il y a un monsieur, si je me rappelle bien, faut que j'arrive à retrouver un lien, parce que sinon ça va être très dur à retrouver, qui avait fait Light Amnesia, c'est-à-dire Amnesia, mais en un jour.
Ah ouais.
C'est-à-dire que sans le... Voilà. Mais... Ben en fait pas tellement, parce qu'au final, c'est le côté sombre, évidemment ça joue sur une des peurs primaires qui est la peur du noir, mais finalement pas
un peu
tant
raciste,
que ça. C'est un peu raciste, ouais. Je suis désolé. Mais finalement pas tant que ça, en fait. L'ambiance sonore contribue beaucoup plus à la flip que le fait que ce soit en pleine lumière. Parce que finalement, ça fait des bruits très curieux derrière toi, et le fait que tu sois en pleine lumière, c'est presque encore pire, parce que finalement tu sais d'où ça va venir. Et là, c'est encore plus stressant au final. Mais j'ai vu des gens qui faisaient des expériences assez curieuses comme ça.
Donc on peut pas terminer sans évoquer Resident Evil, évidemment. Pour rappeler qu'il est là, mais voilà, c'est tout.
Il est plus trop là quand même.
Il est plus trop là.
J'avais prévu une petite rétro sur Resident Evil au cas où on aurait le temps. Bon, là en l'occurrence, je pense qu'on va passer à l'autre sujet pour éviter de faire une émission de 4 heures.
Alors, moi j'ai une super idée de jeu, un jeu d'horreur, ce qui a jamais été fait. Alors je l'appellerais.
Jouer à Sonic Lost World.
The Economic Program of François Hollande. En fait,
oh mon Dieu.
Le but du jeu, c'était Moscovici, et puis il faut que tu réalises le programme sans grève, sans rien.
T'es mal barré.
Possible.
À mon avis,
ça y est, là tu veux provoquer des suicides carrément.
Moi je trouve que c'est pas mal, faudrait faire ça.
Je sais pas, est-ce que vous voulez chacun essayer de conseiller un jeu en particulier? Je sais pas, Antix par exemple, t'aurais un jeu à conseiller pour les gens qui aiment bien se faire peur?
Alors moi je conseillerais la série Project Zero ou Fatal Frame, selon la partie du monde dans laquelle on est.
C'est bien de préciser qu'il y a des gens qui sont des losers. Et
le 2 est sorti sur Wii, c'est ça?
Le 2 est sorti sur Wii. Alors oui. Moi j'ai fait le 4, je l'ai fait avec un ami il y a un an et demi, je crois. Mais,
et avec la lait fraise ou pas?
Depuis quand t'as des amis?
Depuis quand j'ai des amis?
depuis que t'as du lait fraise.
Vu que j'ai du café à la maison, ça ramène beaucoup de monde. C'est cher le café à Paris. C'est un jeu qui est assez sympa, enfin, qui niveau ambiance, c'est très film d'horreur japonais, donc avec beaucoup de fantômes, ça a beaucoup joué sur la, la surprise de voir les spectres apparaître devant soi. T'as une ambiance sonore qui était très intéressante, t'avais carrément des coups de fil qui étaient dans la Wiimote, donc en plus le son de la Wiimote était pourri, donc les coups de fil faisaient vraiment peur parce que tu comprenais pas ce qu'ils disaient.
C'est vraiment un truc horrible, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte, il commande une pizza, mais qu'est-ce que c'est?
Et non, c'est, enfin, c'est vraiment un jeu d'ambiance, enfin, l'ambiance était vraiment extrêmement réussie, moi je me suis vraiment pris au jeu, et il y avait quand même des moments où on était bien angoissé parce qu'on avait plus beaucoup de vie, en plus son personnage il est lent comme c'est pas permis. Le seul moyen que tu as tué des fantômes, c'est de prendre une photo. Et à partir du moment où tu veux prendre la photo, tu passes dans l'objectif, comme si tu prenais une vraie photo. Tu as encore moins de vision.
Et le jeu, c'est encore pire.
C'est encore pire. Et le jeu t'encourage à prendre la photo au dernier moment pour tuer plus rapidement le fantôme.
Ah oui, d'accord.
C'est vraiment stressant. L'ambiance est plutôt sympa. Stressant.
C'est maso.
Et en tout cas, bon, vu que l'épisode 2 est disponible sur Wii, je conseille à ceux qui voudraient se trouver un petit jeu d'horreur plutôt sympathique.
Voilà. Si rare comme t'es pas un grand fan d'horreur, je suis pas sûr que t'aies quelque chose à conseiller, mais si, néanmoins, si tu veux conseiller quelque chose, vas-y.
Alors, conseiller de moi-même, non, mais tout à l'heure, en faisant des petites recherches, je suis tombé sur quelques tops des meilleurs jeux d'horreur. Alors, c'est marrant parce que finalement, on a cité quelques-uns du... Moi, je vous passe le top 25, mais on va parler des derniers...
Fais-nous un top 5, des meilleurs, un truc comme ça.
Voilà, top 5. Donc, finalement, numéro 4, il y a Eternal Darkness, donc on en a parlé. Le... Deuxième, c'est Fatal Frame, justement. Donc, voilà, on a
donc très bonne référence.
Alors, en cinquième, je connais pas, c'est System Shock 2.
C'est un jeu qui est sorti sur ordinateur il y a une quinzaine d'années. C'est quand même assez.
Ouais. Par les mecs qu'on fait BioShock.
Enfin, c'est l'origine de BioShock, et c'est vrai que c'est un jeu qui est assez dur. C'est pas dur au sens malsain et choses comme ça. Je sais pas si on peut vraiment le qualifier d'horreur, mais effectivement, c'est assez flippant.
Enfin, alors, pas plus qu'un Unreal, quoi, tu vois, bon...
Ouais, bon. En numéro 3, c'est le numéro 5, hein, donc ça fait partie des moins bons du top 5. En numéro 3, alors c'est un que j'ai trouvé beaucoup dans les tops des jeux d'horreur, c'est Amnesia.
Donc pareil, Amnesia de Dark Descent, qui est effectivement ce dont on parlait tout à l'heure.
Et en numéro 1, c'est Silent Hill 2, qui est très connu, que j'ai pas fait non plus, mais... et qui est beaucoup cité également.
Alors oui, c'est un jeu d'horreur un petit peu particulier, parce qu'effectivement c'est un jeu d'horreur un peu psychologique, mais qui est... Enfin, moi j'ai pas fait le 2, j'ai fait une partie du 1, mais j'ai pas réussi à le finir, et alors là c'est pareil, c'est le genre de truc, tu supprimes la visibilité à 2 mètres avec la torche, et tu supprimes la radio qui t'indique qu'il y a un ennemi pas loin, tu n'as plus rien, le jeu, voilà, t'es attaqué par des petits enfants mongoliens sans visage, c'est peut-être très flippant, mais je veux dire que globalement ça ressemble à rien, c'est un jeu qui repose exclusivement sur une mécanique de gameplay, qui est la radio grésille quand un ennemi est à proximité, ce qui fait que t'as ton stress qui monte forcément immédiatement, surtout que tu vois qu'à 2 mètres. Mais voilà, c'est vrai que tu éclaires tout, t'enlèves la radio, c'est juste un jeu de tir ridicule. C'est tout pour dire. Alors moi, Médus, t'avais peut-être un jeu à conseiller.
J'ai pas de jeu à conseiller, par contre, juste rappeler que c'est les soldes Steam spécial Halloween viennent de commencer, putain, je mélange tous les mots, viennent de commencer aujourd'hui, donc pour le PC, les soldes Steam, donc il y a pas mal de trucs, faut aller jeter un œil, voir ce qui vous intéresse. Et alors aussi, à partir de jeudi, on va voir les Resident Evil 3DS qui seront en promo à... je sais plus combien de pourcents, on l'a annoncé sur le dojo, donc... Ah, moins 50%, ouais, c'est à 15€. 15€ le Resident Evil. Donc voilà. À conseiller directement, à la Noé, qui avait l'air bien branlé, et puis voilà. Resident Evil 5, et le 4, évidemment.
Le 5, c'est pas vraiment peur. Hein.
Non, le 4 non plus. Peur, mais bon,
enfin, le 4, il y a quelques petits trucs, mais...
4 moi, un peu plus, quand même.
Je vais vous conseiller deux jeux...
pas spécialiste.
Un connu et un moins connu. Alors, le premier que je vais vous conseiller, c'est Silent Hill Shattered Memories.
Sur Wii.
Sur Wii, ou sur PSP. Parce qu'après tout, il y a peut-être des gens qui ont une PSP.
Tu veux prendre la version.
La version Wii est vraiment très 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 bien, donc il y a pas de faut pas hésiter. C'est une relecture très intelligente du premier épisode, qui a ses passages flippants, a ses passages malsains, a ses passages où on commence à péter un câble et à casser le quatrième mur parce qu'on sait plus exactement ce qui se passe et comment on fait, et qui en plus a une replay value assez énorme, puisqu'il y a plusieurs fins et que obtenir les différentes fins est pas forcément si facile que ça. notamment parce que ça dépend des actions du joueur. Et il y a un deuxième jeu que je voudrais vous conseiller, alors c'est un jeu qui est sorti au Japon exclusivement, sur Super Famicom. Donc c'est un jeu un petit peu particulier, mais il y a une ROM traduite en anglais de très bonne facture qui circule sur le net, qui est assez facile à trouver. Le jeu s'appelle Clock Tower, et c'est un jeu d'aventure type point and click sur Super NES, un petit peu pénible en termes de gameplay, mais qui a vraiment une ambiance très très bien foutue, dans lequel on incarne une jeune fille qui est poursuivie par un tueur psychopathe, voilà, ça ressemble beaucoup à un slasher movie, genre Halloween, Vendredi 13, ou ce genre de choses-là, dans lequel il y a un tueur psychopathe qui vous poursuit. L'intérêt étant, vous avez une espèce de barre de stress, qui fait que plus la barre de stress monte, et plus la jeune fille va faire que des conneries, c'est-à-dire elle va trébucher sur le moindre truc, elle va se gourer d'items dans le menu, enfin, c'est des choses comme ça, c'est des mécaniques très intéressantes.
Ça, c'est pas mal, ça.
Qu'on ne retrouve après que dans des Eternal Darkness, dans des Resident Evil, dans des choses comme ça, c'est-à-dire que c'est venu bien plus tard, et ce jeu-là est vraiment un précurseur de ce point de vue-là.
Ça me fait...
Et relativement difficile en plus, donc voilà, ça vaut vraiment le coup, faut parler anglais évidemment, c'est toujours mieux que japonais, mais ça se trouve et c'est intéressant.
Ça me fait penser à deux choses. La première, c'est qu'en fait, le premier jeu qui m'a fait peur, je crois que c'était Maniac Mansion sur NES, mais j'avais 9 ans, tu vois.
Ah, tu vois, finalement.
Il était qu'en anglais, donc c'était pas évident du tout. Surtout quand t'as 9 ans, quoi. Et on avait du mal avec un pote à avancer dedans. Il y avait des passages un petit peu stressants parce que, somme toute, il y avait pas tellement de musique et c'était assez froid, quoi. Et la deuxième chose à laquelle ça me fait penser, c'est que... On parlait évidemment au tout début d'Eternal Darkness et de sa santé mentale, et ça me fait penser au Wii Vitaly Sensor qui n'est jamais, qui est toujours dans les cartons Nintendo et qui serait vraiment pile poil adapté pour un jeu.
C'est pas charitable ce genre de truc.
Pour un jeu de type horreur, quoi.
Ah, c'est vrai que ça pourrait être pas mal.
Et je crois pour Kinect, il voulait faire un truc comme ça ou.
Oui, il percevait l'angoisse du joueur dans son visage, un truc comme ça.
On sait pas encore trop comment ils vont s'y prendre, mais c'est surtout les gens qui ont des petits accidents physiques du visage. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire à ce niveau-là, mais.
Bon, on va passer à la toute dernière partie de l'émission, parce que là, c'est voilà.
Mission exceptionnelle avec une troisième partie.
Une troisième partie qui va être
freestyle. Pas sur Nintendo.
Un petit peu plus courte, mais même pas sur Nintendo, mais qui va quand même parler au cœur de plein de gens normalement. Donc je meuble un petit peu là parce que je galère, parce que c'était pas prévu dans la playlist de base, donc voilà, je tente un petit peu de meubler avec des mots éventuellement qui forment des phrases et que tu peux entendre
chaise,
dans tes oreilles.
Voilà, on en a perçu pas... de l'intérieur de chez Antix.
Je n'en dis pas plus, je vous lance la musique et puis on se retrouve dans un tout petit peu plus de 2 minutes.
C'est quoi la musique?
C'est quoi la musique?
Très vite. Voilà, il n'y a pas de jingle parce que j'ai pas prévu.
Il n'y a pas de problème de jingle.
Donc du coup, on est de retour.
On est de retour.
Alors, attendez, je peux faire le jingle à la bouche. Nous sommes de
retour.
Le barbu qui chante.
Ah. Les barbus qui chantent.
Ça suffit. Cette émission a duré beaucoup trop longtemps déjà.
Eh bien,
on va se finir puisque là, je pense qu'on est tous bien cuits.
On est déjà tous bien entamés de toute façon.
Plus grande chose pour arriver à se terminer. Donc on va finir puisque aujourd'hui, c'était les 25 ans. C'est 25 ans, c'est ça?
Si,
ça
environ, ouais.
Environ. Aujourd'hui, pile, c'est les 25 ans environ. C'est vachement précis. Aujourd'hui, c'est les 25 ans de la Mega Drive. Alors là, c'est...
Joyeux anniversaire,
Mega Drive. Du coup, je sais pas. Alors, comment vous voulez qu'on fasse ça? On fait un petit tour de table de qu'est-ce que ça vous évoque, la Mega Drive? Alors, je sais pas si Antix va pouvoir...
Année Antix, si.
Ben Antix, je sais pas, il est né après la Mega Drive, je pense.
Non, je suis né avant quand même.
Attends, 88.
Mais j'en ai pas eu.
T'en as pas eu.
Mega Drive, c'était 88, c'est tout.
Bah, au Japon, ouais.
Merde. Ah oui, donc ah ben je suis né ouais, après, hein. Oui.
Ah, t'es né après, je suis désolé. Mais...
Donc, le seul truc que j'aurais à dire sur la Mega Drive, c'est que Gunstar Heroes, c'était de la balle. Et voilà, c'est tout.
D'accord, c'est tout ce que t'as à dire. Donc c'est un jeu sur émulateur.
C'est le premier jeu de Treasure.
Il y a ah, un oui. jeu qui est de la balle sur, sur Mega Drive, c'est celui-là.
D'accord, donc toi, Cyril, la Mega Drive, ça t'évoque quoi?
Alors, moi, je me souviens que ma cousine, elle avait une Mega Drive, donc j'avais évidemment une Super Nintendo. Et puis un jour, on avait décidé de s'échanger les consoles. Donc,
Pour le LOLs, quoi.
Voilà, ouais, récupérer ta Super. Quoi.
Donc, comme ça, j'ai pu tester ces jeux merdiques, et puis elle. Et donc, et après, j'ai bien galéré pour qu'on refasse la récupération, parce qu'elle voulait pas me rendre ma Super Nintendo. Et moi, je voulais lui rendre sa Mega Drive. Voilà, un truc normal quoi. Les gens, ils ont une Mega Drive, ils sont contents, mais après, quand ils testent mieux, ben, c'est plus pareil.
J'ai une auditrice qui nous dit que ce qu'elle se rappelle surtout, c'est des Sonic super laid et bien vomito, et du Mega CD, la super extension de la Mega Drive qui a trop bien marché. Le Mega CD, c'était vraiment la révolution. Mais je te laisse évoquer un souvenir de Mega Drive si tu le souhaites.
Sur Mega CD, je me souviens qu'il y avait quand je regardais Télévisateur 2 avec Cyril Drevet, là, il y avait comment ça s'appelle, la Virtua Racing.
Oui, Virtua Racing.
En épreuve à la fin de l'émission, et alors j'étais en.
C'était sur 32X Virtua Racing.
Ah, ok. Bref, bon bah ok.
D'accord, ça va, c'est bon.
C'est bon, ça y est, t'es calmé.
Encore, je suis même pas certain qu'il fallait le 32X pour y jouer.
Non, parce qu'il y avait une version Mega Drive.
Il y avait une version, voilà, Mega Drive tout court, et qui était déjà très bien en plus.
Qui reprenait le même principe que les cartouches de Super NES dans lesquelles il y avait des puces. Là, il y avait une puce dans la cartouche qui coûtait très cher,
ouais.
Qui était un processeur à lui tout seul et qui faisait que finalement la console ne vendait rien. En fait, c'est le processeur qui était dans la cartouche qui faisait tout.
Et ben, ça change pas que ce jeu, il m'a toujours fait envie. Et je crois que j'y ai joué longtemps après et en fait, c'était de la merde.
C'est bien, c'était sympa, mais évidemment ça m'a le vieilli forcément.
Alors Méduse, qu'est-ce que toi, un souvenir de Mega Drive?
Un million de souvenirs si vous voulez, j'essaie de faire le tri sur le petit truc.
Un ou deux souvenirs qui paraissent plus amusants que les autres.
456e souvenir.
Ah, justement, c'est celui-là dont j'allais parler. Ah. Non, j'avais une Mega Drive justement avec quelques jeux. À l'époque, c'était marrant parce qu'il y avait la perception Nintendo contre Sega. Donc Nintendo, c'était pour les enfants, Sega pour les adultes. Ce qui était totalement faux. La perception n'a pas tellement bougé en 20 ans. Et, elle était totalement déplacée. On entendait ce genre de truc aussi. Moi, je me souviens avoir entendu ça dans les grandes surfaces. Les gens qui demandaient des conseils. Acheter une console Nintendo, une console Sega. Écoutez, Sega, c'est plutôt pour les adultes. Pour les enfants, c'est mieux Nintendo. Et puis t'entends.
Mais c'est pour ça qu'ils en ont vendu.
Vous savez, vous avez un salaire, vous, pour travailler là? Ouais, c'est pour ça qu'ils en ont vendu, à mon avis, parce que fondamentalement, voilà. Et moi, j'ai quelques petits souvenirs amusants. C'est les cartouches de Sonic qui devaient. Enfin, on pouvait en ficher dans. Il y avait Sonic et Knuckles comme jeu dans lequel on pouvait en ficher une cartouche de Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 pour avoir des trucs en plus. Mais je sais plus quoi du tout.
Pas Knuckles, justement.
Bah, t'es avec Knuckles, ouais. Dans le 1.
Ah oui, d'accord, tu pouvais jouer à Sonic 1 avec Knuckles, en fait, c'est ça?
Ça semble bien, oui.
D'accord. Aucune idée, en fait, je me suis toujours demandé ce que c'était, vu que j'avais Sonic 1. En jeu mémorable, sur Mega Drive, il y a, pour moi, il y a Soleil, qui n'a pas si bien vieilli que ça. Et en gros, c'était le but de Sega en faisant Soleil, c'était de pouvoir avoir son Zelda. Et quelque part, c'était aussi un jeu d'aventure action... aventure RPG comme on veut, en vue de trois quarts haut, avec un petit bonhomme sympathique, puis il y avait des donjons, des niveaux sympathiques, et la particularité c'est que ces pouvoirs, il les avait pas avec des objets mais avec des animaux en fait. Il pouvait y avoir deux animaux en même temps, et
c'est
des animaux
Pokémon,
qui faisaient des trucs
mais en 3D isométrique.
C'était en temps réel quoi. C'était pas en isométrique, c'était de trois quarts haut.
Ah,
c'est
les animaux, fallait les capturer
ou il y en a... De quoi ?
Tu les mettais dans des Pokéballs ou pas ?
Est-ce que tu les trouvais dans des coffres ?
Dans des coffres, je sais plus.
Est-ce que ça faisait tintintintin quand tu enlevais les animaux des coffres ?
Non, il y avait pas de... Alors je me souviens même pas qu'il y avait des coffres, s'il y avait des coffres ou pas d'ailleurs. Là, il y avait un mini-jeu très sympathique dedans, c'était le karting, tu pouvais faire du time attack dedans, c'était assez sympa. Un Arorak du Mario Kart évidemment. Alors l'autre jeu mémorable, je suppose qu'il y en a quand même qui ont entendu parler de ce jeu-là ici, c'est Landstalker. ça évoque quelque chose à quelqu'un? Oui, non,
Oui, moi ça m'évoque quelque chose. Alors là, par contre, c'est de la vue isométrique.
Là, c'est de la 3D isométrique. Ouais.
C'est de la 3D isométrique et c'est un jeu d'aventure bien, bien raide. Bien, bien difficile. Enfin, moi,
ouais,
c'est de dire que ce que j'en
complètement hardcore.
J'y ai joué il y a quelques années, mais genre au début des années 2000, donc j'y ai joué un certain temps quand même. J'ai plus trop de souvenirs, mais je sais que c'est un jeu qui a beaucoup marqué les gens qui ont joué à l'époque pour justement sa grande difficulté.
Alors, ouais, car la grande difficulté, mais pas seulement, puisque le jeu, la map, elle était immense et le level design est absolument ouf. Il y avait un truc qui était pas évident, c'est en 3D isométrique, vu que t'avais le relief en plus, c'était pas du tout plat, t'avais des endroits où tu devais escalader des montagnes par des chemins tortueux et tout, et alors comme c'était en 3D isométrique, des fois t'étais carrément derrière le décor, quoi, tu vois.
Donc, ouais, ça fait un peu comme Solstice et Equinox.
Ouais, tout à fait.
Ce genre de référence.
Et l'appréciation des plateformes était vraiment pas évident.
Tout à fait. Mais qui jouait énormément sur justement l'effet de profondeur. Enfin, dans certains cas, qui jouait entre guillemets sur l'effet de profondeur, c'est-à-dire que t'avais l'impression qu'il était devant toi, alors qu'en réalité, il était en dessous ou au-dessus. Enfin, c'était assez perturbant. Comme...
Je suis pas arrivé au bout du jeu, mais j'étais arrivé au dernier donjon. Et effectivement, c'était super dur, mais c'était hyper captivant. En plus, il était en français. Il y avait pas mal de labyrinthes, il y avait pas mal de villes aussi. Sur Mega Drive, s'il y a un jeu auquel il faut jouer, c'est vraiment celui-là. Et je crois que c'est, enfin, s'il le ressortait sur console virtuelle, je le payerais, je vais même le payer 15€ parce que c'est vraiment le jeu.
15€.
Le jeu qui moi, il les vaut parce que tu joues vraiment longtemps dessus. Il est voilà. Après, pour le coup, la maniabilité est peut-être devenue un peu rigide vu que c'est t'as 4 directions de déplacement, quoi, tu vois. Donc voilà, je sais qu'il est ressorti sur Steam mais uniquement en anglais et voilà, après sur les jeux le reste, il y a eu quelques jeux sympas exclusifs genre comment ça s'appelait, Shug Rock, un jeu de plateforme en 2D avec un homme préhistorique, il y avait le 2 c'était avec son
Super NES.
Ouais,
qui est aussi sorti sur Super NES.
Tu confonds pas avec Joe & Mac?
Non, il me semble que
tu... Ah,
non, peut-être pas. Ah, j'ai un doute. Je veux pas dire
de Joe & Mac, ils étaient deux. C'était un avec des cheveux bleus ou
cyan,
je crois, et l'autre avec...
Là, c'est pas tout à fait pareil.
Ouais, voilà. Et enfin, ça, c'était assez sympa. Il y avait pas mal de trucs aussi qui étaient sympas. Mais j'ai plus trop ça.
Bref, c'était
comme
une console sympa,
ouais.
Quoi.
Alors, il y avait un truc étrange, c'était les jeux Electronic Arts. La cartouche était un peu plus haute. Voilà, elle avait pas la même forme, elle était un peu plus haute, et t'avais une espèce d'encoche jaune, on sait pas trop à quoi ça servait, je me suis toujours demandé ce qu'ils faisaient avec leurs cartouches.
Quand tu appuies dessus, ça...
À Sega, les cartouches, qui faisaient ça avec Electronic Arts.
Exactement, c'était pour pas payer les... Alors, ils payaient les royalties, mais ils payaient pas les cartouches. Parce qu'il se trouve que la Mega Drive était un système relativement ouvert. Alors, je sais pas si c'était volontaire ou non. Moi, je vais pas évoquer de souvenirs de Mega Drive parce que j'en ai pas vraiment, j'ai assez peu joué à la Mega Drive quand j'étais jeune, j'ai un petit peu plus joué au début des années 2000 où je commençais à m'intéresser pour savoir ce que les gens trouvaient de si génial là-dedans.
Et t'as trouvé
c'était quoi?
Il y a quelques jeux genre Landstalker effectivement qui très rigide mais qui valent le coup de faire l'effort, je pense. Et derrière,
c'est bien rigide.
Oui, j'aime rigide.
J'adore ça. Pour le coup, excuse-moi de t'interrompre, la Mega Drive c'était la première console qui avait une prise casque. Enfin, la première console de salon, peut-être la
Mega
seule qui avait une prise casque, la Mega Drive 1, avec le petit bouton de volume pour régler directement le volume du casque directement sur la console. Il y a eu une Mega Drive 2 après. Il y a eu le 32X,
il y a
eu
une Mega Drive 3 aussi.
Et Mega Drive 3.
Mais c'est vrai, il y a une Mega Drive 3.
C'est sérieux?
Oui, je suis par Majesco.
Ouais.
Parti par Majesco.
Ouais.
Donc moi j'ai pas de souvenir. Alors, j'ai un souvenir, c'est avec un cousin éloigné, donc c'est pas tout à fait un cousin, c'est un cousin au cinquième degré, issu de Germain, enfin voilà un truc comme ça, où on a passé une après-midi complète sur Street of Rage à essayer de finir.
C'est très bon ce jeu.
Et voilà, ça c'est un de mes très bons souvenirs où je me suis vraiment bien marré. Et j'ai un autre souvenir de jeu, c'est la première fois que j'ai joué à Street Fighter 2. Moi c'était sur Mega Drive, c'était pas sur Super NES. Et mon connard de pote, il avait pris la manette à 6 boutons, et moi je galérais avec la manette à 3. Il fallait appuyer sur start pour alterner entre les poings et les pieds, et ça c'était
l'horreur.
D'ailleurs, sur Mortal Kombat 3, sans la manette à 6 boutons, c'était extrêmement compliqué sur Mega Drive.
C'est particulièrement pénible.
Ouais.
Donc voilà, donc moi je me rappelle de ça. Bon, après, c'est. Mais j'ai un souvenir. Enfin, moi ce que je voudrais évoquer, c'est le génie technique des gens de chez Sega. Alors c'est peut-être pas des gens qui faisaient des jeux extraordinaires, mais on sent derrière que c'est des gens qui faisaient de l'arcade et qui avaient vraiment l'habitude de travailler avec du hardware. Faut voir que le processeur central de la Master System, c'était un Zilog Z80. C'est un processeur très très répandu dans les années 80. un processeur 8 bits. Et donc, pour construire la Mega Drive, le chipset son de la Mega Drive, c'est le Zilog Z80 de la... De la Master System, exactement le même. Et du coup, l'émulateur, enfin pas l'émulateur, mais on va dire, c'était aussi une des premières toiles de salon à être rétro-compatible. C'est-à-dire que t'avais un petit accessoire à acheter que tu branchais directement sur la Mega Drive 1, tu mettais tes jeux de Master System dedans, et en réalité c'était purement du hardware, c'est-à-dire que le petit bidule ne faisait rien d'autre que d'aller se raccrocher à une pin particulière à l'intérieur de la console.
Ah oui, et c'était le processeur son qui...
Voilà, le processeur son prenait la main complètement et devenait processeur principal. Et Sega a réitéré le même genre de truc, c'est-à-dire que la Master System, enfin la Game Gear, pardon, est une Master System portable. C'est le même Zilog Z80 exactement, cadencé de la même manière, le même jeu d'instruction,
ça,
même
carte mère. Effectivement, qu'il y avait un adaptateur pour mettre le jeu Master System sur
Game
Gear.
Et il y a un adaptateur pour mettre tes jeux Master System sur Game Gear, ce qui est quand même, ils avaient quand même un sacré génie de ce point de vue-là. Il y avait vraiment des gens qui connaissaient très 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 bien le hardware et qui savaient très 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 bien le manipuler. Et donc moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est ça, c'est ce génie qu'avait Sega à sortir des architectures certes très curieuses, comme l'architecture de la Dreamcast qui ressemble à rien, ou l'architecture de la Saturn qui est très particulière.
Mais la Dreamcast était la route
très très très, très bien conçue. Pardon.
Ouais. Techniquement, la Saturn, la Dreamcast tenait quand même le coup par rapport à la PS2 qui est sortie 2 ans après.
Ah oui, complètement. Mais il y avait un défaut, c'est qu'il fallait que les mecs créent leurs propres outils de développement. C'est à mon avis pour ça que ça a fait un four. Mais bon, on n'était pas là pour parler de la Dreamcast.
Ouais,
on parlera
forcément.
Quand ce sera les 25 ans. Forcément. De la
mais d'ailleurs, on dit souvent que Nintendo, c'est les rois du. Enfin, c'est les rois pour faire des accessoires et ce genre de trucs, mais je trouve que Sega, rien qu'avec la Mega Drive et son Mega CD 32X, c'est quand même déjà un truc... il fallait investir quand même pas mal de pognon si tu voulais avoir une Mega Drive complète, on va dire.
Complète, même si, le 32X restera... Le Mega CD est, on va dire, un demi-échec.
Ouais, carrément.
Dans la vie. Alors non, c'est pas un échec complet, hein. Faut pas croire, ça s'est quand même un peu vendu et c'est une époque où les gens y croyaient. je pense qu'on peut le dire ça comme ça.
Ouais, je sais pas. Moi j'y croyais pas à l'époque. Le 32X oui, mais
le 32X était quand même une belle arnaque, c'est sorti à peine 6 mois avant la Saturn, donc ça, aux États-Unis, alors c'est sorti il y a un peu plus longtemps au Japon, je sais même pas si en Europe c'est sorti en fait officiellement.
C'est sorti en 95.
J'en ai jamais vu. Personnellement.
Moi oui, j'en ai déjà vu moi.
Mais bon voilà, je voulais juste souligner effectivement le génie technique de Sega qui était capable de faire des choses avec du matériel. Matériellement, il faisait quand même des consoles qui étaient extrêmement bien conçues et avec des astuces vraiment de bidouilleurs et d'électroniciens dans tous les sens qui font que c'est une très très bonne. Voilà, très 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 bonne, très bon matériel en tout cas. Pareil, une autre petite particularité, on peut brancher une manette de Mega Drive sur une Atari 2600, ça marche. On peut le brancher sur une ColecoVision ou une Intellivision de Mattel, ça marche. Parce qu'en fait, ils ont repris les mêmes connecteurs série qu'il y avait sur ces consoles-là, qui est un connecteur tout à fait standard de l'industrie. Et donc le connecteur Mega Drive est un connecteur standard de l'industrie. Donc c'est le genre de détail qui fait que il y avait vraiment un... On sent que Sega c'était l'arcade et c'était vraiment des gens qui avaient l'habitude de bosser avec du matos.
Là, j'ai les chiffres sous les yeux, ils ont vendu 40 millions de Mega Drive.
Ben, c'est pas mal.
Un peu moins. C'est pas mal. Hein.
Voilà.
Alors en parlant de hardware, parce que j'avais tenté de faire un quiz sur Sega.
T'as merdé du coup.
Non, c'est parce que Sega c'est pas intéressant, donc y a rien à dire. Et donc il y a quand même un petit truc intéressant, donc ça va être l'unique question du quiz. Quel est le premier matériel qu'a sorti Sega, le premier hardware qu'a sorti Sega créé par leur propre service R&D? C'était dans les années 1950.
Ouf.
Un God Michel mécanique.
Ah non, c'est une machine à sous.
Presque.
Un pachinko?
Non.
Un jukebox?
C'est un jukebox, ouais. Et ça s'appelait le Sega 1000. Et en fait, en gros, Sega, ils ont commencé par étant importateur de jukebox, principalement pour les bases militaires américaines. Et donc le premier matériel qu'ils ont fait après en avoir importé, c'est donc un jukebox Sega 1000. Voilà.
Oui, ça c'était intéressant.
C'était le seul fun fact.
C'était le seul truc Sega. Intéressant. Alors on va finir avec la blague du jour, parce que Cyril a une blague du jour qui envoie du pâté. Donc Cyrard, je t'en prie, tu as l'antenne pour toi tout seul
et après.
Mais vu l'hilarité dans laquelle ça t'a mis durant la deuxième pause musicale, je pense que ça doit être pas mal. Donc c'est pour ça que là, on attend la blablague et ensuite je ferai ta gueule et je mettrai tes traits.
Suspense.
La blablague.
La blague.
Alors c'est pas une blague, c'est une petite devinette. Quel point commun entre une femme et une capote? La réponse est... Attention.
J'ose pas.
J'ai peur.
Elle passe plus de temps dans ton portefeuille que sur ta bite.
C'est pas mal du tout.
C'est pas mal.
Allez, ta gueule et mes Tetris.
On se retrouve dans 2 semaines. Salut tout le monde.
Salut.
Salut.